Merci pour, aux organisateurs pour cet événement que je trouve magnifique. Et merci pour m'avoir invité à parler sur ce sujet. Même s'il s'agit d'un sujet un peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas la philosophie, mais je crois que c'est important de connaître comment on a parlé du sujet des animaux, de la sensibilité, de la conscience, du langage, de l'esprit des animaux dans l'âge passé, parce que c'est important, parce que la façon dont on en discute aujourd'hui, il y a beaucoup d'héritage cartésien, à mon avis. Il y en avait aussi dans le film de Bruno hier, je crois, dans les opinions des chercheurs de l'ANRA. Alors, nous allons parler de cette théorie des animaux-machines de Descartes et après des philosophes qui l'ont critiqué et qui ont essayé de donner une image des animaux complètement différente, comme des individus sensibles, conscients, qui communiquent, qui arrivent à expliquer ses sentiments et arrivent jusqu'à raisonner, en fait. C'est un sujet sur lequel j'ai travaillé à l'université. J'ai écrit un long mémoire pour la conclusion de mes études à l'université. Alors, cet exposé, c'est un résumé d'une partie de mon mémoire. Je vais lire, mais comme il s'agit d'un sujet un peu compliqué, je vous propose de faire une pause à la moitié, si vous êtes d'accord, de 10 minutes. Vous êtes d'accord?
Oui.
Ok. Alors, Descartes, je pense, donc je suis, comme vous le savez, c'est le premier principe de la philosophie de Descartes. L'objectif de Descartes est bâtir une philosophie nouvelle, abandonner la philosophie des anciens, l'autorité de Platon, d'Aristote. Donc, il commence une pensée totalement différente. Il commence par abandonner toutes les connaissances sur quoi on pourrait imaginer les moindres doutes. Au but d'arriver aux connaissances qui sont certaines. Alors, il dit qu'il faut abandonner toutes ces connaissances, les impressions sensibles, les vérités mathématiques aussi. Alors, prochain, Antoine. Voilà ce qu'il écrit dans le discours de la méthode. Considérant que toutes les mêmes pensées que nous avons étant éveillées, nous peuvent aussi venir quand nous dormons, Je me résolus de feindre que toutes les choses qui m'étaient jamais entrées en l'esprit n'étaient non plus vraies que les illusions de mes songes. Alors, on arrive à douter de toutes les choses, mais ce doute est en soi-même une preuve, ou la seule preuve de l'existence du sujet qui doute. C'est le sens de « je pense, donc je suis, cogito ergo sum ». Alors moi, je suis en train de douter, alors j'existe. Alors, dans cette démonstration de l'existence du moi, il n'y a aucune preuve que ce moi est une substance matérielle. Prochain, Antoine. Alors, je pouvais faire que je n'avais aucun corps et qu'il n'y avait aucun monde, ni aucun lieu où je fusse, mais je ne pouvais pas feindre pour cela que je n'étais point. Tant que le sujet pense, le sujet existe, c'est tout. Le sens de ce sujet n'est que de penser. Pour être, il n'a besoin d'aucun lieu, ni ne dépend d'aucune chose matérielle. Ces raisonnements en conclusion démontrent avec la plus grande certitude, selon Descartes, la séparation entre l'âme et le corps. Prochain. Voilà. Il n'y a pas de sujet matériel de la pensée. Alors, vu que la preuve de l'existence de ce sujet entièrement spirituel qui pense est nécessairement liée à l'art de la pensée, Descartes aboutit à la conclusion que la pensée est l'essence même de l'âme. Par conséquent, la réalité est divisée en deux parties, la première spirituelle et la deuxième matérielle. La première, une substance qui pense, c'est la res cogitans, la chose qui pense. Et la deuxième, la matière, une substance qui ne pense pas, dont la propriété première est d'être étendue. C'est la res extensa, la chose étendue. Dans la cinquième partie du discours de la méthode, Descartes explique la raison pour laquelle les animaux seraient des machines. Alors, il dit que le langage est le seul signe qui prouve la présence d'une substance qui pense dans un corps. Alors, si on rencontre un corps à figure humaine, on arrive à comprendre qu'il s'agit d'un être humain et pas d'un automate, s'il est capable de parler, d'utiliser un langage. Alors, il faut examiner si les animaux sont capables d'utiliser un langage pour décider s'il y a une substance qui pense dans leur corps aussi. Selon Descartes, Descartes pense que les animaux ne parlent pas, ils ne sont pas capables de parler. Il dit que le système de communication utilisé par les animaux n'est pas un véritable langage comparable au langage humain, car il s'agit d'un système fermé, c'est-à-dire il s'agit d'un système borné en nombre fini de signifiés qui sont associés de manière univoque à des signes. Un système rigide comme celui de feu de signalisation, vous voyez, où il y a seulement deux signaux, rouge ou vert, auxquels seulement deux messages sont associés, stop ou marche. Par contre, le langage humain est un système ouvert, universel, où les signifiants, les signifiés, c'est-à-dire le signe, les mots, et les signifiés peuvent changer. Et c'est une thèse qui a été reprise au XXe siècle par le linguiste américain Chomsky, qui pense comme Descartes que les animaux ne parlent pas, ne communiquent pas avec un langage, un véritable langage. Les animaux donc ne parlent pas, selon Descartes. C'est pour cela qu'ils ne pensent pas. Ils ne sont pas des choses qui pensent, mais seulement des choses étendues. Est-ce que cela signifie qu'ils ne sont pas vivants, qu'ils ne sont pas sensibles? Descartes répond oui et non. Il écrit dans sa correspondance qu'il ne nie pas la vie et la sensibilité des animaux, mais il s'agit d'une vie et d'une sensibilité entièrement assimilées aux autres phénomènes physiques. C'est-à-dire, il s'agit des processus mécaniques. Alors, la vie est un processus mécanique, la sensibilité est un processus mécanique. En fait, tout ce qui se passe, tous les phénomènes qui se produisent dans la substance étendue sont de nature purement mécanique, sont des simples mouvements, contact, choc, poussée, traction. La vie est tout simplement l'effet d'un feu qui brûle dans le cœur, dont Descartes donne une explication mécanique. La sensibilité est le résultat du mouvement que les objets extérieurs communiquent au cerveau au moyen d'un nerf. Prochaine image. Alors, tout cela entre que dans la philosophie de Descartes, il n'y a pas de différence de nature entre les corps vivants et les corps inanimés. Tous les corps sont inertes. Il n'y a pas de différence entre ce que nous appelons aujourd'hui l'organique et l'inorganique. Mais, alors, les processus vitaux sont des mouvements mécaniques. Le mouvement est donné de l'extérieur. Alors, il s'agit de corps inertes et qui n'ont pas la capacité de se mouvoir par eux-mêmes. Il s'agit d'automates. Dans le véritable sens, les animaux, selon Descartes, sont des automates. Alors, la conséquence qui me semble intéressante est que les facultés de la connaissance, sensibilité et raison sont entièrement dissociées dans la philosophie de Descartes, l'une de l'autre. La sensibilité est un processus purement matériel qui ne diffère pas essentiellement des autres mouvements physiques. La raison est un processus entièrement spirituel. De plus, le cogito, la pensée, représente, selon Descartes, le moment unique et total de la conscience de soi, étant donné qu'on n'est conscient de soi-même que dans l'acte de la pensée, étant donné que le jeu de l'esprit du doute hyperbolique démontre qu'on peut imaginer que son propre corps n'existe pas et qu'on ne cesse pas de penser pour autant, étant donné enfin que la pensée n'a rien à voir avec la matière, il va de soi qu'un être entièrement matériel n'est absolument pas conscient de lui-même. Ainsi, dans la philosophie cartésienne, la réalité est coupée en deux, la chose qui pense d'un côté, qui a une complète, claire et distincte conscience d'elle-même, et la chose étendue de l'autre, qui est tout simplement un ensemble de corps qui se meuvent mécaniquement et automatiquement et ne s'aperçoivent ni d'eux-mêmes ni des autres êtres. Prochain. Alors, vous voyez, les deux problèmes posés par la théorie des animaux-machines, elle n'explique pas la différence entre les corps vivants et ceux qui ne sont pas vivants. Elle sépare les facultés de la connaissance en faisant de la sensibilité un processus purement mécanique et en attribuant le sentiment de soi seulement à la pensée. Alors, le philosophe dont je vais parler a essayé de donner une réponse à ces problèmes. En résumé, selon Descartes, prochaine image, les animaux ne sont pas conscients d'eux-mêmes, n'ont pas de langage, n'ont pas de facultés cognitives, ne connaissent rien, ne sont pas plus vivants ou plus sensibles qu'une montre ou qu'un automate. Alors, maintenant, je vais parler de Pierre Bayle, prochain.
Tu avais dit que des fois, il disait qu'il était sensible, que les animaux pouvaient être sensibles. Ils ne pensent pas, mais ils peuvent être sensibles.
Oui, mais il dit que la sensibilité est un processus mécanique, donc je ne crois pas qu'on peut dire que selon Descartes, les animaux sont vraiment sensibles, parce que la sensibilité est dépourvue de signifier. D'accord ? Alors, Pierre Bayle. Il était philosophe érudit et il vécut entre la fin du XVIIe siècle et le début du XVIIIe. Il écrivit un dictionnaire historique et critique et, où il y a un article qui traite du problème de l'âme des animaux. C'est l'article Roraius. Dans cet article, Bayle critique aussi bien les théories de Descartes que celles des aristotéliciens au sujet de l'âme des animaux. Il suggère que sur la base d'une argumentation rationnelle, on ne peut établir aucune différence ontologique, c'est-à-dire au niveau de l'essence, et gnosiologique, c'est-à-dire au niveau des facultés de la connaissance, entre l'homme et les autres animaux. Alors, d'un côté, la critique à Descartes. D'un côté, Descartes nie que les animaux ont une âme, nous l'avons vu. Alors, Bayle écrit que ce sentiment est difficile à soutenir et éloigné de la vraisemblance, car l'habileté démontrée par plusieurs animaux ne peut pas être expliquée simplement par le mécanisme. Les actions des animaux sont tellement complexes que si on réussissait à les expliquer de façon mécanique, on pourrait expliquer de la même façon les actions humaines, sans qu'il soit besoin de faire intervenir l'âme. La thèse cartésienne, prochaine. Ah non, je me suis trompée. Alors, c'est le... Image numéro 11, s'il te plaît. Excuse-moi. Non, prochain. Alors, la thèse cartésienne ne permet donc pas de justifier une distinction entre les animaux et les humains. Si les premiers sont des machines, les seconds le sont aussi. Alors, de l'autre côté, la pensée traditionnelle à l'âge moderne était la pensée d'Aristote, qu'on apprenait dans les écoles, dans les universités. Et selon Aristote, il y a une tripartition entre âme végétative, âme sensitive et âme rationnelle. Alors, l'âme végétative contrôle la nutrition et la reproduction et se trouve dans tous les vivants. L'âme sensitive, qui se trouve dans tous les animaux, y compris les humains, contrôle aussi l'activité des sens. L'âme rationnelle, enfin, est propre seulement des humaines et ajoute à tout cela la pensée. Aristote affirme que la faculté sensible n'existe pas sans le corps, au contraire, la raison en est séparée. L'école aristotélicienne donc objectait à Descartes que les animaux ont une âme. Il s'agit d'une âme sensitive. Mais selon les aristotéliciens, cette âme animale, contrairement à l'âme humaine, qui est entièrement spirituelle et connaît les conseils abstraits et universels, l'âme animale est une substance mitoyenne entre la matière et l'esprit, car la matière brute n'a pas la capacité de sentir et connaît seulement les objets matériels et singuliers. Alors, on ne pouvait pas dire que l'âme des animaux était spirituelle parce que cela entraînait qu'elle était immortelle comme celle des humains, mais on pouvait dire non plus qu'elle était matérielle parce que la matière n'est pas capable de connaître. Alors on disait qu'il s'agissait d'une substance intermédiaire entre la matière et l'esprit. C'est une idée un peu bizarre. Alors, Bayle critique aussi bien cette position et conduit la critique sur deux niveaux, métaphysique et gnosiologique, pour démontrer qu'il n'y a pas de différence spécifique entre l'âme des hommes et l'âme des animaux. Premièrement, il n'est pas possible qu'il y ait une substance intermédiaire entre la matière et l'esprit. Alors, l'âme sensitive, l'âme des animaux, doit être ou matérielle ou spirituelle. Si elle est spirituelle, elle est capable de penser aussi bien que l'âme humaine. Image 9. Oui. Nous concevons clairement qu'une substance non étendue qui peut sentir est capable de raisonner. Et par conséquent, si l'âme des bêtes est une substance non étendue, c'est-à-dire spirituelle, capable de sensations, elle est capable de raisonnement. Elle est donc de la même espèce que l'âme de l'homme. Si au contraire, l'âme des animaux est matérielle, étant sensible, elle est aussi capable de penser parce que, image suivante, si un principe matériel est capable de connaître une infinité de choses qui se passent au dehors, il sera beaucoup plus capable de connaître ses propres pensées, de les comparer ensemble et de les multiplier. Ainsi, les réflexions et les conclusions et les abstractions de l'homme ne demande pas un principe plus noble que la matière. Prochain. Alors, il découle de l'argumentation de Bayle que ni l'automatisme de Descartes ni l'aristotélisme ne permettent d'établir une quelconque différence entre les humains et les animaux. Si les animaux n'ont pas d'âme, les humains non plus. La critique à Descartes. Si les animaux ont une âme, elle doit être de la même espèce que l'âme humaine. Vous voyez, si la spirituelle, elle est capable de raisonner aussi bien que l'âme humaine, si elle est matérielle, c'est le même, alors l'âme des animaux n'est pas différente de l'âme humaine. Vous voyez que la sensibilité joue un rôle fondamental dans l'argumentation de Bayle. En effet, la philosophie de la nature de Descartes, comme nous l'avons vu, vider le concept de sensibilité de tout contenu en l'assimilant aux autres mouvements physiques. Alors, dans le monde matériel de Descartes, il n'y avait pas d'être véritablement sensible. Mais si on refuse le cartésianisme et qu'on reconnaît l'existence d'êtres sensibles, on doit par là même reconnaître que ces êtres, étant sensibles, sont aussi doués de conscience et de raison. Voilà ce que Bayle écrit. Prochain. Il est mille fois plus difficile de voir un arbre que de connaître l'arbre par lequel nous le voyons. Alors, dans ces cadres, la sensibilité prend la place de la pensée, prend la place du cogito. La perception des objets extérieurs devient l'acte cognitif premier qui donne la conscience de soi-même. Prochain, le passage de la privation du sentiment à la perception d'un arbre et au discernement de cet arbre est une action plus difficile que le passage de la sensation au raisonnement. Alors, j'espère qu'il soit évident qu'il pensait qu'un être est sensible, il est aussi conscient, il raisonne, voilà. Et une fois qu'un être est sensible, cela entraîne tout le reste. Alors, nous voyons par ces passages l'orientation que la critique matérialiste de la philosophie cartésienne était en train de prendre. Premièrement, on refusait l'uniformation de toute la matière dans les concepts de res extensa, et en soulignant la différence entre la matière inerte et la matière vivante, on essayait de comprendre le passage de l'une à l'autre et les caractères spécifiques du vivant, notamment du vivant sensible. Deuxièmement, on refusait la division radicale entre les facultés de la connaissance, on rapprochait la sensibilité et la raison, et suivant la remarque de Bayle, on repérait dans la sensibilité même la condition nécessaire et suffisante de la pensée. Il va de soi que cette perspective entraînait non seulement qu'on n'acceptait pas de considérer les animaux comme des machines, mais qu'on leur attribuait des facultés beaucoup plus larges que dans la pensée d'Aristote. On arrivait à affirmer que les animaux sont conscients, ont un langage, enfin qu'ils sont capables de faire des raisonnements abstraits. Alors, nous arrivons au XVIIIe siècle, mais c'est la moitié. On va faire une petite pause. D'accord ? 10 minutes. Thank you. Vous n'êtes pas fatigué?
Oui.
Non,
c'est
bien. Oui, en fait. Non. C'est clair. Vous avez des questions? Non. Alors je continue. D'accord. Alors, 18e siècle, la maîtrise suivante. Voilà. Alors, c'est Julien Onfroy de la Mettrie. Il était médecin, philosophe, matérialiste et athée. Il écrivit des œuvres jugées scandaleuses et immorales, comme L'homme-machine et L'antisénèque. Son histoire naturelle de l'âme fut brûlée sur l'ordre du Parlement de Paris. Il fut obligé à s'enfuir de France en Hollande, puis en Allemagne, à la cour du roi Frédéric II de Prusse. C'était la moitié du XVIIIe siècle. Alors, ce roi aimait accueillir tous les intellectuels qui fuyaient la France. Alors, la Mettrie aimait provoquer les bien-pensants en exaltant le bonheur physique et les plaisirs des sens. Vous voyez, il a l'air d'un homme qui... Oui, qui boit, qui aime le plaisir. Alors, il critiquait les moralismes rigoristes, le stoïcisme, le christianisme. Alors, étant matérialiste, ne croyant pas à l'existence d'une âme spirituelle, la Mettrie essaie d'expliquer comment il est possible que la matière soit capable de penser. Dans ce but, évidemment, il faut entièrement abandonner la philosophie de Descartes, abandonner le dualisme. Alors, il écrit qu'il n'y a dans tout l'univers qu'une seule substance, à savoir la matière. Il faut aussi abandonner le mécanisme qui réduit toute la réalité matérielle en gigantesque ensemble d'engrenages automatiques et passifs. On ne peut pas expliquer matériellement la pensée dans ce cadre, il faut l'abandonner. Alors, selon la Mettrie, la matière vivante est différente de la matière brute. Cette dernière est seulement étendue, là où la première, la matière vivante, est douée aussi d'une force intrinsèque de mouvement, une puissance motrice. Et aussi, elle est douée de la faculté de sentir. Nous avons vu que dans la philosophie de Descartes, tous les corps physiques étaient inertes et qu'ils recevaient le mouvement de l'extérieur à la même manière d'une montre dont les aiguilles se meuvent seulement après que quelqu'un les remontait. Au contraire, les machines vivantes dont la Mettrie parle sont des corps qui ont une capacité de s'émouvoir par eux-mêmes. Il dit que le corps humain est une machine qui monte elle-même de ses ressorts. Alors, c'est clair, pour Descartes, le mouvement arrivait de l'extérieur, pour la Mettrie, il arrive de l'intérieur du corps vivant. Au niveau empirique et expérimental, la Mettrie explique cette capacité par le concept d'irritation qu'il emprunte aux ouvrages d'un fameux physiologiste allemand contemporain, Albrecht von Haller. L'irritation est la contraction automatique et involontaire qui a le propre des fibres musculaires, même s'ils sont séparés du corps. Nous en avons vu un exemple dans le film sur les abattoirs de Paris. Vous vous souvenez cette image horrible, le corps qui s'est mouvé après la mort. Alors, la Mettrie observe le même phénomène. Et il en a conclu que l'irritation est une propriété de toute la matière vivante organisée. dans ses parties les plus petites. Prochain. Alors, pour la maîtrise, la matière est divisée en deux. Il y a la matière brute. Il y a aussi une matière organisée qui est vivante, qui a un principe moteur interne, qui a la sensibilité et qui a la pensée. Alors, il y a une différence entre les automates et les machines vivantes. Alors, par conséquent, prochain, ce sont deux passages de l'homme-machine. Posez les moindres principes de mouvement, les corps animés auront tout ce qu'il leur faut pour se mouvoir, sentir, penser. Qu'on m'accorde seulement que la matière organisée est douée d'un principe moteur qui se la différencie de celle qui ne l'est pas, et peut-on rien refuser l'observation la plus incontestable, et que tout dépend dans les animaux de la diversité de cette organisation. Alors, dans ces cadres, les fonctions qu'on attribuait traditionnellement à l'âme, soit les fonctions végétatives comme la nutrition, soit celles appelées spirituelles, la pensée, etc., sont le résultat de certains processus physiques qui se passent dans un substrat matériel avec une organisation spécifique. Les végétaux, les animaux, les humains. Par conséquent, les différentes capacités des êtres vivants ne sont pas expliquées sur le plan ontologique, avoir ou non une âme, mais sur le plan physique. La diversité entre les êtres dépend de la complexité de leur organisation. Ainsi, c'est l'anatomie comparée qui, en nous révélant l'analogie des structures physiques des vivants, notamment de leur système nerveux et de leur cerveau, nous explique aussi la variation de leurs facultés cognitives relativement au niveau de développement de ces structures. Il n'y a pas de différence essentielle entre l'homme et les autres animaux. Il y a seulement du plus ou moins selon la complexité de l'organisation physique. Il est écrit dans l'homme-machine que l'homme n'est qu'un animal. Prochain. En général, la forme et la composition du cerveau des quadrupèdes est à peu près la même que dans l'homme. Même figure, même disposition partout, avec cette différence essentielle, que l'homme est de tous les animaux celui qui a le plus de cerveau et le cerveau le plus tortueux, en raison de la masse de son corps. Ensuite, le singe, le castor, l'éléphant, le chat, le renard, le chat, etc. Voilà les animaux qui ressemblent le plus à l'homme, quand on remarque chez eux la même analogie graduée par rapport au corps calleux.
Est-ce que c'est le corps calleux?
Ah, c'est une partie du cerveau. Je crois. Je ne suis pas physiologiste, je ne suis pas médecin. Alors, il faut préciser que alors, nous l'avons vu, sur les plans physiques, il n'y a pas de différence essentielle entre l'homme et les autres animaux. Mais l'organisation physique est la condition nécessaire mais non suffisante du développement des facultés de la connaissance. Il faut ajouter à la potentialité physique une bonne éducation, c'est-à-dire une instruction appropriée. Le rôle de l'éducation dans l'homme-machine est très important. En fait, les individus à la bonne organisation peuvent, au moyen de l'éducation, développer et raffiner leurs facultés cognitives et arriver à bouleverser les rapports de force entre les vivants. C'est le cas de l'espèce humaine qui est la plus faible du point de vue de la force physique, mais est douée d'un cerveau plus grand. Elle s'est élevée au-dessus des autres espèces animales au moyen de l'instruction, qui a actualisé les potentialités de sa disposition physique à la réflexion. De plus, au moyen de l'éducation, un individu peut arriver jusqu'à traverser les frontières d'espèces. Vu la surprenante analogie entre les organes des animaux humains et non humains, La maîtresse ne croit pas que les animaux non humains soient complètement dépourvus de la faculté de réfléchir et de raisonner. Au contraire, il soutient non seulement qu'ils ont des connaissances, des idées et des signes pour communiquer entre eux, mais aussi qu'ils seraient capables d'acquérir des facultés traditionnellement attribuées seulement aux humains. Prochain. Parmi les animaux, les uns apprennent à parler et à chanter. Ils retiennent des airs et prennent tous les tons aussi exactement qu'un musicien. Les autres, qui montrent cependant plus d'esprit, tels que les singes, n'en peuvent venir à bout. Pourquoi cela si ce n'est pas en vis des organes de la parole? Mais ce vis est-il tellement de conformation qu'on n'y puisse apporter aucun remède? En un mot, serait-il absolument impossible d'apprendre une langue à cet animal? Je ne le crois pas. Je prendrai le grand singe, préférablement tout autre, etc. Et dans ces passages de l'homme machine, la maîtrise soutient qu'il est tout à fait possible d'apprendre un langage humain au singe. Alors, comme ils ne sont pas capables de prononcer des mots à l'état naturel, il faut tout simplement les exercer à utiliser les organes de la phonation. Et après ce passage, la maîtrise suggère d'utiliser la méthode développée par les médecins hollandais Amman pour éduquer les sourds muets à parler. Il est évident que selon la maîtrise, le langage n'est pas un caractère inné de l'homme, comme le soutenait Descartes, mais au contraire, il s'agit d'un instrument acquis dont les signes sont arbitraires. Dans le système de facultés de la connaissance décrit par la maîtrise, la sensibilité joue un rôle fondamental. La sensibilité est la capacité d'être affectée par les objets extérieurs qui est propre à certaines formes de matière vivante qui sont organisées dans un système nerveux et un cerveau. Alors, il s'agit d'une faculté matérielle. Mais comme il n'existe pas de substance spirituelle, mais tout est matière, la pensée même est une faculté matérielle. Elle est une activité du cerveau qui se développe en élaborant les idées qu'on se forme à partir des sensations données par les sens. Dans l'homme-machine, la maîtrise écrit que, citation, « la pensée n'est qu'une faculté de sentir et l'âme raisonnable n'est que l'âme sensitive appliquée à contempler les idées et à raisonner. » Alors, il faut préciser que la maîtrise explique la sensation comme l'avait fait Descartes. La sensation est un mouvement. En mouvement des esprits animaux, c'est-à-dire la partie la plus subtile du sang qui coule dans les nerfs et transmet l'impression de l'objet, de l'organe des sens jusqu'au cerveau. Mais le cadre philosophique est complètement différent. Premièrement, nous avons vu que selon la maîtrise, la matière, en s'organisant dans un être vivant, acquiert des propriétés, la puissance motrice, etc., qui ne présente pas la matière brute. La sensation et tous les autres processus vitaux sont bien de mouvement, donc, mais leur nature est différente de celle des autres mouvements physiques, car ils se passent dans une matière organisée. Deuxièmement, nous avons vu que la sensibilité n'est pas un processus matériel quelconque selon la maîtrise, il s'agit d'un acte de connaissance. En fait, c'est à partir des sensations qu'on arrive à avoir des idées et à les coordonner, à les comparer, en un mot, à raisonner. La pensée même, selon la maîtrise, est une évolution ou une application de la faculté de sentir. Peut-être quelqu'un se souvient de Condillac qui soutenait presque le même, que la pensée s'origine à partir de la sensibilité, mais il a une grande différence parce qu'il était dualiste, alors il expliquait tout cela sur le plan spirituel. Alors, selon la maîtrise, et contrairement à Descartes, un être sensible n'est pas du tout un être inerte. C'est un être qui est capable de connaître ce qui se passe au dehors de lui et d'élaborer ses connaissances. Enfin, c'est un être conscient. Antoine, prochain. Merci. Un être du surtout semblable à la nôtre, qui fait les mêmes opérations, qui a les mêmes passions, les mêmes douleurs, les mêmes plaisirs, plus ou moins vifs. Un tel être, enfin, ne montre-t-il pas clairement qu'il sent ses torts et les nôtres, qu'il connaît le bien, le mal, et en mot, a conscience de ce qu'il fait? En conclusion, le monisme, c'est-à-dire qu'il y a une seule substance, monisme. Le monisme matérialiste de la maîtrise décrit une égalité totale entre le vivant. Pas de hiérarchie des sens ou d'espèces. Dans la nature, il y a seulement des individus matériels dont l'organisation est plus ou moins complexe, qui ont une conformation physique plus ou moins bonne et qui ont la possibilité d'améliorer leurs capacités et facultés au moyen de l'éducation. Ainsi, les rapports entre les vivants ne sont pas établis une fois pour toutes, mais ils peuvent changer, soit sur les plans de l'histoire naturelle, comme dans les cas de l'espèce humaine qui s'élève au-dessus des autres animaux, soit sur les plans individuels, comme dans le cas du singe qui apprend un langage et s'élève au-dessus des êtres qui ne parlent pas, y compris certains humains. Égalitarisme et individualisme sont aussi les fondements de la morale de la maîtrise. Alors, selon les philosophies anthropocentriques et moralistes, le souverain bien était une félicité spirituelle qu'on arrivait à réaliser en se détachant du corps et de ses passions. Alors il s'agissait d'un bien que seuls les humains, en tant qu'êtres raisonnables et spirituels, pouvaient atteindre. Et d'un bien de la nature était la même pour tous les humains, évidemment. En revanche, selon la maîtrise, citation, la nature nous a tous créés uniquement pour être heureux. Tous les êtres ont les propres façons d'être heureux, soit spirituellement. Ah, pardon, je suis trompée. Alors, la nature nous a tous créés uniquement pour être heureux. Oui, tous, depuis les vers qui rampent jusqu'à l'aigle qui se perd dans la nuit. Alors, tous les êtres ont leur propre façon d'être heureux, soit spirituellement, soit corporellement. Et la nature donne à tous le droit de réaliser leur propre bonheur. Suivant. J'en conclus que chacun a sa portion de félicité, les gueux comme les riches, les ignorants comme les savants, les animaux comme les hommes, car le temps d'en faire des machines dépourvues de sentiments est passé. Que chaque individu parvient conséquemment à son degré de bonheur, comme à la santé, à la gaieté, à l'esprit, à la force, au courage et à l'humanité possible. Voilà, c'est tout pour la maîtrise. Alors, prochain, Maupertuis. C'est Pierre-Louis Moreau de Maupertuis. Il était un homme de science très célèbre en son temps. Il était mathématicien, astronome, biologiste. Il répandit en France la théorie de la gravitation universelle de Newton. Et il prit part à une expédition polaire au but de mesurer la courbure de l'arc de méridien pour prouver l'aplatissement de la Terre au pôle. J'aime imaginer cet homme avec cette perruque qui marche dans la neige. C'est un peu drôle, je trouve. Alors, la réflexion de Maupertuis au sujet de la matière, de l'âme des animaux et de la sensibilité se développe dans le cadre d'un intérêt pour la génération des vivants, l'embryologie, et notamment pour le processus de transmission des caractères héréditaires. Dans les années 1740, un enfant blanc naquit dans une famille noire. Cet événement fit du bruit à Paris, alors Maupertuis essaya d'en donner une explication scientifique. Il écrivit ses premières remarques dans un ouvrage qui s'appelle « Vénus physique » et formula de nouvelles hypothèses en 1751 dans un essai sur la formation des corps organisés au système de la nature dont nous allons parler. Alors, selon Maupertuis, ni le mécanisme Descartes ni l'attraction de Newton ne suffisent pour expliquer la formation du fœtus, car tous les deux supposent que les parties de matière se meuvent uniformément. En revanche, les molécules, c'est-à-dire les parties les plus petites de matière vivante, c'est un mot qui avait été créé par Buffon dans cette époque-là. Buffon, on va nous parler mercredi, je crois. Alors, les molécules de l'embryon suivent une évolution différente selon les différents organes qu'elles vont former. Alors, Maupertuis demande, si toutes ont la même tendance, la même force pour s'unir les unes aux autres, pourquoi celles-ci vont-elles former l'œil? Pourquoi celle-là l'oreille? Pourquoi ces merveilleux arrangements? Pour répondre à cette question, il faut, selon Maupertuis, attribuer à la matière des propriétés supplémentaires. En plus de l'impénétrabilité, la mobilité, l'inertie, l'attraction, c'est-à-dire les propriétés physiques. Prochain. Si l'on veut dire sur cela, la formation des vivants, quelque chose qu'on conçoive, quoique encore on ne le conçoive que sur quelques analogies, il faut avoir recours à quelques principes d'intelligence, à quelque chose de semblable à ce que nous appelons désir, aversion, mémoire. Ce sont donc des propriétés psychiques que Maupertuis attribue à la matière vivante pour expliquer la formation des corps organisés. Alors, le processus de l'embryogenèse, où les petites parties de matière qui vont former l'être vivant s'assemblent d'une façon différenciée, les unes allant former un organe, les autres un autre organe, reproduisant la figure des organismes d'origine, les parents, à l'apparence d'un processus intentionnel. Les molécules agissent comme si elles avaient une intention ou un désir de se placer à un endroit plutôt qu'à un autre. Et ces placements suivent le dessin de la conformation physique des parents, reproduisant leurs traits caractéristiques, comme si les molécules avaient le souvenir de la place qu'elles occupaient quand elles étaient dans les organismes d'origine et voulaient la retrouver. Alors, la capacité de désirer de se souvenir suppose évidemment que les molécules soient conscientes. Dans le paragraphe 52, Maupertuis attribue aux molécules un degré infinitésimal de perception ou sensibilité qui entraîne une conscience minimale de soi. Il explique un peu plus loin comment à l'union physique des molécules dans le nouvel organisme correspond à la fusion de la perception dans une perception unique. Suivant. Chez nous, il semble que toutes les perceptions des éléments rassemblés, il en résulte une perception unique beaucoup plus forte, beaucoup plus parfaite qu'aucune des perceptions élémentaires. Et qui est peut-être à chacune de ces perceptions dans le même rapport que le corps organisé est à l'élément. Alors, dans l'hypothèse des mots perçus, toute la matière possède dans ses composants les plus petites en niveau élémentaire de sensibilité des consciences, même les minéraux. Il est en ses cadres jusqu'aux minéraux. Donc on peut dire qu'il était vitaliste. De sorte que tous les corps organisés, des végétaux aux animaux jusqu'à l'homme, possèdent un niveau plus ou moins développé de sensibilité de conscience qui résulte de l'union des molécules organiques qui les constituent. Alors, la conception de la matière de Maupertuis est très loin de la res extensa de Descartes, évidemment, mais d'une façon un peu différente de celle de la maîtrise. Ces derniers pensaient que la sensibilité et la pensée étaient des fonctions qui émergeaient à un certain niveau d'organisation de la matière, les fibres, les organes, le système nerveux, le cerveau. Par contre, Maupertuis les attribue à toutes les parties de matière dans leur stade élémentaire, les molécules, en faisant ainsi des propriétés constitutives de la matière même. Prochain. Vous voyez ces schémas. Alors, pour Descartes, la matière était entièrement inerte. Pour la maîtrise, il y avait une différence entre la matière inerte et la matière vivante. Pour Maupertuis, toute la matière est vivante et sensible. Alors, les éléments simples, les molécules, ont un minimum de sensibilité de conscience. Les corps organisés sont un assemblage de perceptions alimentaires dont résulte leur sensibilité, la conscience de soi, la pensée, etc. Alors, dans la philosophie de Maupertuis, nous voyons que l'âme est matérialisée et il y a plusieurs degrés de conscience de soi selon les différents niveaux d'organisation de la matière, de la conscience sourde d'un minéral ou d'une molécule élémentaire jusqu'à la conscience claire des humains. Alors que Descartes coupait le monde en deux, les êtres qui sont conscients, les êtres spirituels, et ceux qui ne le sont pas du tout, les êtres matériels. Les conséquences de cette philosophie au niveau des facultés de la connaissance et de la morale sont très remarquables. En fait, dans son hypothèse, dans l'hypothèse de Maupertuis, tous les êtres matériels, du fait qu'ils possèdent quelques degrés de sensibilité, sont doués aussi d'intelligence. Comme Maupertuis, comme Bayle, comme la maîtrise, fait de la sensibilité la condition nécessaire et suffisante de la conscience de soi et conséquemment de la pensée. Suivant. Tout sentiment, toute perception est une pensée. Elle est nécessairement accompagnée du sentiment de soi, de ce que le philosophe appelle conscience. Oh, c'est ce sentiment de soi, du soi, qui caractérise la simplicité, l'indivisibilité de la substance à laquelle il appartient. Et si le sentiment le plus léger ou le plus confus qu'aurait une huître suppose autant une substance simple et indivisible que les spéculations les plus sublimes, les plus compliquées de Newton. Alors, vous voyez, à cette époque-là, Newton était un personnage qu'on regardait avec la plus grande admiration parce qu'il avait expliqué le mouvement des corps célestes par l'attraction. Alors, cette comparaison est une provocation. Alors, parmi tous les êtres matériels dont on a reconnu la sensibilité, la conscience de soi, les animaux non humains qui ressemblent aux humains quant à la complexité d'organisation sont doués d'une faculté intellectuelle presque aussi étendue que celle des humains.
Tu le cites, c'est quoi ça ?
C'est lui. C'est lui.
Les animaux non humains.
Alors, il dit, c'est une citation, elle s'exerce, les facultés intellectuelles des animaux, la faculté, elle s'exerce sur les propriétés physiques et peut-être s'étend jusqu'aux spéculations de l'arithmétique et de la géométrie. C'est dans le système de la nature qu'il dit cela. Alors, les animaux sont seulement dépourvus de la faculté de participer activement à la morale, parce qu'elles ne se fondent pas sur la connaissance des propriétés physiques. Alors, il arrive seulement à connaître les propriétés physiques, à faire de la mathématique, mais pas, il n'arrive pas à connaître les idées de la morale, comme la justice, le bien, le mal, etc. Mais il ne s'agit pas, comme on pourrait le penser, d'une exclusion défavorable aux animaux fondée sur un préjugé. Premièrement, parce que l'intention de Maupertuis est simplement d'établir une distinction au niveau de l'épistémologie entre la science de la nature qui étude les objets empiriques, les objets physiques, et la morale de l'autre côté qui s'effondre sur des concepts qui ne sont pas physiques, le bien, la justice, etc. Deuxièmement, parce que même si dans l'opinion de Maupertuis, les animaux ne sont pas des agents moraux, pour utiliser une terminologie contemporaine, il reconnaît qu'ils sont des patients moraux. Alors, il reconnaît que l'homme a des devoirs envers les animaux. Parmi ces lettres philosophiques, il y a une lettre intitulée « Du droit sur les bêtes ». Où il critique la cruauté envers les animaux des Européens, elle lui oppose la compassion et le végétarisme des Indiens, mais il critique aussi le végétarisme des anciennes philosophies pythagoriques et platoniciennes, dont les disciples ne mangeaient pas de viande parce qu'ils croyaient à la métempsychose. Alors, à son avis, c'est une attitude incorrecte, parce qu'elle ne respecte pas l'animal en lui-même, mais l'humain qu'il a été. Alors il écrivant, « Il me semble qu'on a une raison plus décisive que la métempsychose, pour ne point croire permis de tuer ou de tourmenter les bêtes. Il suffit de croire, comme on ne peut guère s'en empêcher, qu'elles sont capables de sentiments. » Ah, cette phrase rappelle la phrase de Bentham. La question n'est pas peut-il raisonner, ni peut-il parler, ni peut-il souffrir. Là où, en réalité, comme vous le savez, je crois, Bentham croyait qu'il est interdit de faire souffrir les animaux, mais pas de les tuer, si on les tue sans souffrance, là où Maupertuis croit qu'il faut aussi ne pas les tuer. Alors, en fait, il y a des éléments de la philosophie morale de Maupertuis qui sont très proches à l'utilitarisme, que Bentham développait 40 ans plus tard. Maupertuis écrivit en 1749 un essai de philosophie morale où il proposait une morale arithmétique, c'est-à-dire une théorie morale qui mesure le bien de chaque individu en faisant un calcul des plaisirs et des douleurs qui lui sont propres. Dans cet essai, Maupertuis donnait une définition très large des plaisirs et des douleurs, en y incluant aussi bien le plaisir et peine spirituelle que corporelle. Alors, tout dépend de la prédisposition de l'individu. Il s'agit d'une théorie morale dont la racine est dans l'ancienne philosophie d'Épicure. Alors, comme les plaisirs des sens sont inclus dans la définition du bien moral, les animaux non humains, en tant qu'êtres sensibles, sont considérés comme des êtres qui ont un intérêt à chercher le bien et à éviter le mal. Cela semble entraîner pour Maupertuis une forte obligation morale des humains envers les animaux non humains. Il écrit, prochain, « Faut-il qu'une âme soit précisément celle de tel ou tel homme, ou celle d'un homme en général, ou qu'il ne faille pas la figer d'un sentiment douloureux ?» Alors Maupertuis critique aussi ici notamment la philosophie de la métempsychose, mais on peut entendre cette phrase très radicalement, même s'il ne l'était pas complètement dans l'intention de l'auteur, comme l'ouverture officielle de la discussion sur l'anthropocentrisme moral, discussion qui, à mon avis, est la conséquence logique de la critique matérialisme du dualisme cartésien, et notamment de la théorie des animaux-machines. Alors, ces deux critiques matérialistes, celle de la maîtrise et celle de Maupertuis, ont contesté la théorie des animaux-machines au niveau de l'ontologie et de la gnoséologie. Alors, comme le monde est fait seulement de matière, des êtres supérieurs car spirituels n'existent pas. L'homme est donc un animal parmi les autres. Au niveau de la faculté de la connaissance, la sensibilité, la conscience, la raison sont des facultés propres aux êtres matériels. Donc, elles appartiennent aux animaux non humains et pas uniquement aux humains. Alors, même si ces auteurs dont je vous ai parlé se sont exprimés assez synthétiquement au niveau de la morale, je crois que ce sont des positions potentiellement antispécistes qui entraînaient déjà des conclusions au niveau de la morale. Maintenant, c'est à vous de me dire si ça a été utile ou pas tout cela. J'ai fini.
Pardon, où est-ce que vous avez fait votre
à l'université, la deuxième université de Rome.
Ah, voilà, d'accord.
Il a écrit une introduction au traité des animaux de Condillac.
Enfin, Condillac, mais il a écrit tellement de
livres. Oui. C'est l'introduction à l'ouvrage de Bernard, de Claude Bernard. Il était élève de Grand Guillaume.
Oui, c'est ça.
Génial.
Oui, ça a été mon directeur de thèse. Moi j'avais l'âge des professeurs puisque quand j'ai repris mes études, puisque c'était des étudiants, et ils proposaient des cours de l'écriture. D'ailleurs, son cours sur Picard se terminait par la théorie de l'État, qui est un paralogisme. C'est-à-dire qu'il avait dit les choses honnêtement, il n'a pas voulu, pas un sophiste, hein, il n'avait pas voulu tromper son monde. Mais c'était. Et c'est vrai parce que, vous voyez, dans la. Dans, je pense que. Je ne pense pas que je suis d'accord avec la chambre. Mais le verbe être qui est le verbe être qui est la discussion. Parce qu'une pierre Elle est au sens d'exister. Mais c'est intéressant. Merci
beaucoup. Mais vous êtes venu parce que vous
savez. J'habite Saint-Julien, mon mari, le pharmacien.
Alors, vous êtes là par hasard?
Non, non, j'ai vu dans le journal.
Vous avez vu? Et vous avez vu? Ah, alors c'est possible.
Mais malheureusement, le journal a été invité à beaucoup de conférences parce que j'ai des enfants qui vont débarquer, des enfants des petits-enfants. Et tout ce que je pourrais faire, chaque fois que je pourrais.
Vous avez vu, il y a une autre conférence sur le fond.
Mercredi.
Si je peux, je viendrai. C'est vous, j'étudie aussi Buffon pour mon mémoire.
C'était quel sujet, oui.
C'était les conséquences de la guerre sur l'âme des animaux au XVIIIe siècle.
Les conséquences de la...
Du débat sur l'âme des animaux.
Alors,
c'était la maîtrise, mon peintre, Dico, Condillac et Buffon. Buffon, je l'ai trouvé très difficile à comprendre parce qu'il écrit très masqué. Il avait peur d'avoir des problèmes avec la censure. Alors, il y a une grande différence entre le discours d'ouverture de l'histoire naturelle où il dit l'homme, il a une partie spirituelle très traditionnelle.
Oui.
Il y a des autres endroits très cachés dans le volume des histoires naturelles où il dit autrement. Ah, oui. Alors il faut chercher bien. Mais il est facile de se tromper parce que vous voyez, on va lire au début le début des ouvrages, le discours, les introductions. On suppose que l'auteur va donner son opinion dans l'introduction, mais c'est pas ça pour Buffon, là, non.
En ce qui concerne une question à propos de ce que vous avez dit à propos des images, effectivement, ça nous engage. Vous savez que maintenant on dit que c'est parce qu'on ressent quoi en moins que l'homme dans la. Je ne pense pas à l'anthologie.
Ah oui,
donc, alors je me demande avec les progrès de la psychologie, si on leur mettait un je ne sais pas quoi artificiel de. Semblable ou qu'on prenne sur un homme ressentiment, par exemple, et qu'on le greffe sur un singe pour voir est-ce qu'il serait capable de ça. Non, mais ça va traverser l'esprit comme ça. Peut-être qu'on arrivera à greffer quelque chose.
En tout cas, bravo.
Est-ce qu'il y a autre chose maintenant?
Non, il y a un débat.
Ah, un débat, ben alors.
Thank you. C'est pas Les chaises un peu plus en rond.